France Culture.
Ah, j'adore, c'est si beau. Disposons-nous d'informations supplémentaires, oui ? Yes.
France Culture. Le Book Club.
Oui, c'est Marie de la radio, Vivien et Christophe. Ah, on vous entend pas du tout. Ça y est, ouais, on a l'impression que vous êtes vraiment sur une autre planète en revanche. C'est quel étage ? Ah, ok. Ça va ?
Dans la bibliothèque de Florence Loirecaille.
Il a tendance à
faire quoi ?
À s'échapper.
Allez, bonjour.
Ah, ça c'est un tel.
Allez-y, allez-y, hein.
Allô ? Canal Plus. Ah non, je ne suis pas intéressée. Excusez-moi. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir.
C'est une blague, non ?
Non ? C'est Canal Plus, ils veulent faire des abonnements.
Marie Richeux.
Ils sont...
Un rire de folle, me suis-je dit en écoutant cette introduction, mais après tout c'est un de mes rires, et les folles, les fous, il en est question dans les textes que Florence Loirecaille a choisi de partager avec nous pour ce portrait de bibliothèque. Elle utilise ce mot « fou » qui est utilisé aussi par celles et ceux qui s'intéressent à la clinique de Laborde. C'est un mot respectueux et peut-être joyeux, on y reviendra. Florence Loirecaille commence à jouer adolescente. Elle découvre que l'on peut, avec les mots des autres, témoigner de la vie. Et c'est encore cela, bien des années plus tard, quelques films au compteur avec Solveig Anspach, Michael Haneke, Claire Denis, et le succès de son personnage Marie-Jeanne dans la série Le Bureau des Légendes, c'est encore cela qui la tient au jeu. Témoigner de la vie et hop, disparaître. Que les comédiennes et comédiens fassent ce qu'ils ont à faire et que nous, nous ayons en face pu vivre la catharsis essentielle. La littérature a toujours été liée à sa pratique du jeu. Ce qu'elle lit lui tenant lieu de réservoir quand elle joue. Florence Loirecaille nous reçoit chez elle. Elle tourne les pages avec deux bagues au doigt en forme de sein qu'une amie créatrice a inventée pour se moquer des chevalières, nous raconte-t-elle. Cela donne à sa bibliothèque l'insolence et la sensualité dont elle ne manquait pas.
Oh, ça enregistre et tout. Ah oui, non, c'est chronomètre. Wow. Non, mais c'est les voix de la radio qui sont dans ma maison. Ça fait bizarre quand même.
Qu'est-ce qu'on commence ? Vous nous faites visiter votre bibliothèque, Florence Loirecaille ? Je me dis que c'est ça.
Oui, oui, oui. Oui, c'est ça.
Faisons face.
Ouais.
Alors.
C'est du bois, ouais. Mm. Oui, c'est moi qui ai dessiné les...
Elle est hyper belle, franchement.
Les rectangles.
C'est vraiment... Non, on faisait des blagues, mais je le dis vraiment... sincèrement, elle est très belle. Donc, décrivons-la.
Alors, c'est des planches, hein, avec des verticales et des horizontales. Mais les rectangles n'ont pas les mêmes dimensions. Mm. C'est des petites boîtes, des petites fenêtres. C'est ouvert.
Mmh. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de clôture sur le côté.
Oui.
Il y a des objets.
Il y a des objets, oui, devant. Oui.
Ça prend la moitié de votre mur.
Oui, j'ai regretté de ne pas avoir mis 20 cm, 25 en plus, oui. Ouais, j'ai un peu regretté.
Ok.
Du coup, je suis obligée de...
Faire ouais, partir ouais, pour faire entrer.
Oui.
Mais
oui.
C'est pas mal comme oui, exercice. Oui. Moi, j'ai ça aussi.
Oui, oui. Là, c'est le cœur du cœur, là, du réacteur.
Il n'y a pas d'autres livres dans la maison.
Si, si, si.
Ah,
ouais, ouais.
Donc là, c'est le cœur du cœur du réacteur.
Ouais.
Décrivons rapidement le cœur du cœur du réacteur.
Bah, ça fait, je sais pas, ça fait combien de
ça
long.
Ça fait 2 sur 4.
Ouais. Non.
Non.
4, c'est haut. 2 mètres sur. 2 mètres sur 2,
bon.
25. Pff, on est nuls en maths.
Ok.
Et.
Non, mais disons surtout près. Ce que nous avons dedans.
Ça fait bizarre, j'ai jamais été aussi près de la bibliothèque.
Ah oui, mais quand même.
Sauf qu'on vraiment cherche
oui,
un truc.
Voilà.
Oui, oui,
oui. Ouais. Moi, c'est évidemment, il y a cette photo qui m'attire. Du coup, j'ai envie de regarder ce qui est à côté.
C'est Christian Bobin.
Oui.
C'est les poètes. Là, c'est le rectangle des poètes.
Mm-hmm. Mm. Yann Neruda,
ouais.
François Julien, Paul Éluard. Enfin. Et ensuite, il y a... Après, vous avez classé par éditeur.
Alors oui, parce qu'il y a des éditions que j'aime bien. NRF et POL, c'est... ouais. C'est par éditeur, oui, c'est vrai.
Bah là aussi, c'est en vrai. Même temps, chez Vertical, c'est
ah
aussi
oui.
par
Mais c'est tout Brésilidis Real, ouais.
Ah, c'est que
ouais.
Brésilidis Real
ouais.
Ah oui.
Ah oui. Et là, c'est mon rectangle Duras.
Ah oui, il y a du monde chez Duras, quand même. Ouais, ouais.
C'est chargé. Là, c'est un peu genre développement personnel, ça penche. Donc c'est normal, c'est le développement personnel.
C'est le développement qui penche.
Oui.
Ou enfin, vous dites développement personnel, pardon, mais Mélanie Klein, c'est quand même plus de la psychanalyse.
Oui,
et
voilà,
c'est Annie Formandel, c'est quand même plus psychanalyse et philosophie.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Désolée, hein, mais...
C'est vrai, oui. Oui, c'est vrai.
Quand même. Ça, du Formentel,
c'est vrai.
Bon.
Oui.
Aimer plusieurs hommes.
Oui, ça, c'est mon frère, et j'ai toujours pas... Il faudrait que je m'y mette, d'ailleurs. J'ai toujours pas lu. Il y a plein de livres que j'ai pas lus encore. Hein. Là, c'est Les Gros. Mais alors, j'aime pas cette édition. Ça,
ah
c'est,
oui.
Ça s'est fait. C'est trop gros.
Les Quarto de Gallimard.
Ouais, c'est trop gros. J'aime bien les avoir parce que j'ai l'impression d'avoir toute leur maison avec moi. Mais j'ai pas de plaisir à les ouvrir. C'est écrit trop petit. Le papier est trop fin. Et en haut, c'est le théâtre. Il y a un peu tout. Hein. Mais en fait, les théâtreux, ils sont avec les théâtreux quand même. Les poètes avec les poètes. Et après ça, je me dis que les gens, ils s'entendent bien entre eux. Voilà, c'est comme un plan de table un peu.
Donc il y a Guibert avec Despentes.
Oui.
Qui sont aussi avec Yourcenar.
Oui.
Et franchement, beau dîner.
Oui.
Qui peut-être avec, j'imagine, c'est Sylvia Plath, non? Ou c'est un truc sur Sylvia Plath, pardon.
Qui, quoi? J'ai pas mes lunettes, je vois rien. C'est Mireille Havé.
Oui, Mireille Havé a vraiment des
lunettes. Mais après, il y a Albert Cohen avec Etty Hillesum.
Ouais. Ouais.
Il y a beaucoup d'Albert Cohen. J'ai eu ma phase aussi, beaucoup Albert Cohen.
Les yeux de Gaza, Fatma Hassouna.
Ça, oui, voilà, c'est le dernier livre que j'ai acheté. Ça, c'est tous les livres.
À lire.
À lire. C'est quoi le nom? Il y a un nom japonais pour les piles des livres à lire, là.
Ah, je sais pas, ça m'intéresserait.
On accumule les...
Ah, ok.
Shiuba, il faut que je vais retrouver.
Une pile exactement pour ceux qui doivent être lus bientôt, quoi.
Voilà. On amasse les piles. Ah, ça, je veux lire. Ça,
ok.
Je... Puis il y a ça. Ah, puis
mais
ça,
des vraies piles à livres. Hein.
Oui.
Des vraies,
oui.
Qui on va vraiment faire.
Oui.
D'accord. Est-ce que vous voulez nous montrer d'autres endroits où il y aurait des livres?
Il y a d'autres endroits, oui.
Donc là, c'est le cœur du cœur. Il s'est défini petit à petit dans votre vie, le cœur du cœur.
Je ne pouvais pas avoir une pièce principale sans bibliothèque.
Mm.
C'est comme si j'avais pas de mur, si j'en avais pas. C'est vraiment... Et alors, dans la chambre, ça, c'est une autre pile de livres à lire. Mais c'est une mini-pile.
Juste la toute petite, là?
Ouais, les deux, là.
Ah oui, non, quand même. Bah, ça fait quand même une vingtaine
aussi,
de bouquins.
Il y a quand même là-bas aussi. Hein,
ouais.
Ça, c'est les livres à lire aussi.
Ah, ça aussi.
Mais que je consulte plus, parce que c'est plus des poésies...
Je sais pas si vous voyez clair, mais...
Oui, c'est un mélange de livres à lire... Et de... Bon, la New, là, ça c'est...
Les poèmes.
Les poèmes. Et ça aussi, mais pareil, ces éditions, elles sont compliquées, ces éditions.
T'es trop petit, quoi.
Ouais, moi, je trouve ça trop petit. Et là, on a une autre derrière, ça, c'est les livres souvenirs.
Ah ouais, c'est-à-dire?
En fait, c'est un truc un peu planqué. C'est un truc avec... C'est les vieux Lagarde et Michard... que ma mère m'avait donné. Et c'est des trucs de souvenirs avec les Georges Sand, l'Alain Fournier, les trucs un peu de l'adolescence un peu.
Mais qui étaient dans votre bibliothèque ou plutôt dans la bibliothèque de votre mère?
Dans la mienne, mais que j'ai gardé avec des livres aussi sur le théâtre. Mais c'est des... C'est marrant, je me dis, c'est des trucs de souvenirs, quoi.
Elle lisait, votre maman? Ou elle lit?
Oui, elle lit beaucoup, beaucoup.
Ouais,
ouais. Ouais, énormément. Elle avait beaucoup de livres. C'est une ancienne prof de philo, et donc du coup elle avait beaucoup de livres, mais c'était un peu hermétique pour moi, les livres de philo.
Ah oui.
Oui.
Est-ce que vous voulez qu'on lise les livres que vous avez choisis? Allez.
Si vous voulez, oui.
On se met à table, on se met... Comment?
Comme vous voulez.
Vous
c'est
allez
quoi le plus simple?
À table. Qu'est-ce qui va?
Ouais.
Je vous demandais si votre mère était lectrice, mais... On n'a pas parlé de votre rapport à la lecture, genre depuis le début, si on rembobine et qu'on se demande, je sais pas, par exemple, si vous avez grandi dans une maison où il y avait des livres, si leur compagnonnage, vous avez dit, c'était pas possible d'avoir un salon sans une bibliothèque, ce serait avoir un salon sans mur. C'est-à-dire que pour vous, c'est fondateur le rapport à la lecture?
Ah oui, vraiment, ouais. Parce que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais enfant, jusqu'à 16 ans, j'habitais en Indonésie, en Égypte, et il y avait quand même toujours des livres dans les cantines, quoi. Enfin, il y avait juste 4 cantines, mais au moins il y avait des livres,
les
dont un que j'ai gardé.
C'est les grandes malles.
Les malles, ouais, les malles en fer. Mais sinon, je ne disais pas, enfant, je n'étais pas une grande lectrice. Hein.
Mais donc ça lisait autour de vous, il y avait tout le temps des bouquins dans les cantines à chaque fois que vous changiez d'endroit.
Ouais.
Mais vous, vous ne lisiez pas.
Non, j'ai pas le souvenir de lecture. Non. Je préfère regarder, oui, la vie en Indonésie, oui. Oui, oui. C'est le retour en France, entre l'Indonésie et l'Égypte. J'ai fait 3 ans en France en CP. Mais à part mon instit de CP qui s'appelait Madame Saint-Laurent, qui me tirait les oreilles, j'ai pas de souvenir d'avoir lu.
Et ça commence quand ? Parce que vous avez l'air d'avoir un rapport plutôt intense à la lecture.
Ouais, c'est marrant, ouais. Mais justement, j'y réfléchissais et en fait, il y a eu la lecture du Bel Oranger qui m'a vraiment extrêmement marquée. C'est la première fois que j'ai été émue dans un livre. J'ai un souvenir d'avoir pleuré.
Vous nous rappelez ce que c'est, le Bel Oranger ?
C'est l'histoire d'un lien entre un petit garçon, c'est ça, hein, un Amérique du Sud, et un arbre. Et je crois que ça parle aussi de la guerre, non ? Je me souviens plus très bien, mais j'ai le souvenir qu'à un moment, l'arbre est arraché, je crois. Et l'enfant pleure cet arbre, et avec qui il a vraiment eu un lien imaginaire, quoi, d'imagination, d'échange et tout. Et mon corps se souvient des pleurs, quoi, vraiment, vraiment. C'est comme si j'étais rentrée dans le livre. Et après, en fait, le truc qui me vient tout de suite, c'est Héloïse. La petite Héloïse qui fait des bêtises, là, dans son... De Kate Thompson. Et ça, c'est mon livre d'enfance, ça. Et ça, c'est hyper drôle, parce que c'est une petite... c'est une gamine qui vit dans un...
c'est vraiment signature d'enfant, Flo.
Je crois que
ça cherche la signature.
Oui, voilà, oui, exactement. Ouais.
Hein, ça cherche vraiment à signer, quoi. J'adore.
Ouais. Et c'est une petite fille qui vit sans ses parents avec sa granny, sa nourrice, qui est une espèce d'anglaise un peu pète sec.
Les illustrations sont incroyables.
Ouais, et c'est. Et en fait, à un moment, elle joue dans sa baignoire et les dessins sont différents pour montrer que. Alors, elle fait plein de bêtises dans ce palace de New York, voilà, c'est là, je crois. Et en fait, dès qu'elle invente, le dessin passe au rose. Et puis, j'adorais comment elle est habillée, je voulais être habillée comme elle, avec les petits chaussons, la petite jupe et les bretelles qui
relève
déglinguaient,
de
là.
Son imagination.
Oui, ça rajoutait.
C'est juste avec des petits contours.
Rose pâle, et du coup, ben, en fait, on passe dans son imaginaire.
Ouais, c'est là le bain.
Ah, et voilà. Et après, oui, voilà, elle s'imagine qu'il y a une tempête, et qu'elle sauve des enfants et tout ça. Et en fait, il y a aussi d'autres endroits où le livre se déplie. À un moment, elle prend l'ascenseur. Ou alors la page est arrachée, peut-être, je ne sais plus. Ah, si, c'est ça.
C'est génial. Donc, vous pouvez décrire, c'est
oui. Ces personnages, ils sont petits comme des fourmis. Et puis il y a je ne sais, une dizaine d'étages. Et puis les escaliers. Et puis à chaque fois, en rose, il y a tout son parcours où elle se pète la gueule. Et bam, elle croise les dames dans les couloirs, les clients et tout. Enfin, voilà, ça me fascinait.
Donc ça, c'est une lecture où c'est vous qui lisez pour vous-même.
Ouais, ouais.
Et le Bel Oranger, découverte de la puissance de l'émotion. Ouais. Et là aussi, rapport à l'imaginaire, j'ai l'impression, le Héloïse de Kate Thompson.
Aussi, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Comme si on pouvait, oui, s'inventer un monde. Ouais, le début peut-être du jeu, je sais pas.
Mmh. Ah ouais ?
Sûrement, sûrement. Sûrement.
Est-ce que vous le liez, ça, le goût du jeu, du théâtre et aussi du cinéma et la lecture ?
Oui, complètement. Ah, complètement. C'est en lisant, moi, que j'ai eu envie de jouer, vraiment. C'est en lisant que j'ai découvert le jeu, c'est vraiment en lisant.
Mais si vous expliquez ça, c'est-à-dire ?
Bah, je me disais, je saurais donner à voir ce qui est écrit. Mais vraiment, ça...
Mais avec votre corps, tout de suite, en vous disant, je saurais faire avec mon corps.
Avec le corps, avec les pensées, avec les descriptions, je sais pas, c'est Cohen qui en parlait là dans un de ses carnets, je crois, le phénomène de la transsubstantiation. On a l'impression qu'on peut devenir l'autre, l'autre décrit, on peut le donner à voir, quoi.
Mais vous avez cette intuition quand ?
Je crois que ça commence assez tôt, hein, vers 15-16 ans. 15-16 ans.
Et c'est lié à la lecture ?
Ah ouais, c'est lié à la lecture, oui. C'est lié à la lecture, c'est lié à ma grand-mère aussi, quand je rentrais l'été. Tous les étés, je rentrais en France, dans le Berry. Et ma grand-mère, qui adorait les livres aussi, les biographies surtout, elle m'a emmenée voir les maisons d'écrivains.
Bah, Berry, Georges Sand.
Voilà, Georges Sand, Alain Fournier. Et c'est des lieux, en fait, qui me fascinaient. Je me disais, donc, l'histoire a eu lieu là. L'écrivain a écrit dans cette pièce-là. Ses murs l'ont vu vivre. Enfin, c'était comme si je découvrais des pièces secrètes, quoi. Ça m'a vraiment troublée, en fait. Et j'avais envie d'être ces personnes-là, dans ces lieux-là.
Oui, mais si on vous écoute, Florence Lorecaille, ça aurait pu se diriger vers l'écriture. C'est-à-dire, je voulais être cette personne-là dans ces lieux-là.
Mais non, oui.
Mais ça n'a pas pris ce chemin-là.
Non. Oui, non, non. Non. Non, non, parce que le deuxième moment fort, c'est quand je suis allée un jour, par hasard, voir les Atrides de Mouchkine, Théâtre du Soleil. J'avais 16 ans, je suis allée en train dans les pieds, c'était loin, il fallait prendre le bus, le RER, le métro, le bus et marcher. Et dès qu'en fait je suis arrivée dans ce temple où j'ai vu les Atrides, je suis devenue vraiment une cinglée des Atrides, quoi. Ces acteurs-là, de cette troupe-là, de cette génération-là, c'est devenu mes dieux, quoi. Et parce que c'était inspiré de danse, balinais, ça me rappelait mon enfance. Ils portaient tous des costumes avec des masques. Il y avait de la musique en live de Jean-Jacques Lemaître. Il y avait Mouchkine, là, qui était là, qui déchirait les tickets, la gardienne du temple. Et il y avait ses acteurs, il y avait Simon Abkarian, il y avait Georges Bigot, enfin toute cette génération-là d'acteurs qui m'ont vraiment fait rêver, quoi. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon temple, quoi.
C'est là. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas de rapport avec le théâtre ?
Alors non, suite à ça, je me suis inscrite dans un petit conservatoire de banlieue, ouais, avec un professeur incroyable, qui était un peu mon maître yoga, Yoda, quoi. Et yoga aussi.
Yoda, yoga.
C'est quelqu'un de très discret, de très doux, qui nous a appris à aimer les textes et pas à jouer, à se montrer, mais vraiment être à l'écoute d'un texte. C'est vraiment lui qui, le premier, m'a donné la parole, vraiment. Il y avait mini audition pour entrer dans son cours, un truc formel, quoi. Et j'avais choisi un texte des Atrides, carrément. N'importe quoi. Mais c'est la première personne qui m'a écoutée, qui m'a donné la parole, oui.
Mais ça veut dire quoi, qui vous a donné la parole ?
Ben, c'est grâce à lui que j'ai pu témoigner de la vie, quoi. Voilà.
C'est quand même pas rien.
Ouais, c'est pas rien, ouais. Ouais.
Et alors, vous témoignez comment de la vie à 16-17 ans ? Vous avez quoi à dire pour la première fois ?
Ben, je crois que c'est là que j'ai vraiment décidé de faire cette passion-là un métier, quoi. Après, c'était beaucoup plus difficile, évidemment, parce que je continuais la fac en parallèle, je faisais des castings. Mais les castings, c'était assez violent, quoi. On est avec une pancarte, les profils, c'est un peu comme si on était en garde à vue, quoi.
Et ça vous a pas découragé ?
Mais non, parce qu'en fait, je connaissais tellement rien au cinéma, au fait de jouer, que je ne savais même pas qu'il y avait des prises. Donc voilà, c'est ma naïveté, le Théâtre du Soleil et les livres qui ont permis que j'en fasse une endurance aussi, quoi.
Et après, justement, dans cette endurance-là, puisque vous dites après, les choses, elles sont éventuellement devenues moins faciles, ou en tout cas moins évidentes, mais il y a toujours eu un lien entre les textes, votre rapport au texte, si puissant, si fondateur, et le jeu, quoi.
Ouais, toujours, ouais. Toujours parce qu'en fait, pendant que je tournais, je continuais la fac. Et j'ai découvert plein de livres comme ça, en fait. J'étais en lettres modernes. Et du coup, en fait, ça, les deux se nourrissaient. Mmh. J'étais sur les tournages où il fallait jouer, voilà, très, croire très vite en quelque chose. Et de l'autre côté, j'étudiais des textes en littérature comparée. Et ça me fascinait, quoi.
Est-ce que lire, c'est croire très vite en quelque chose aussi ?
Ah ouais, c'est vraiment... c'est comme rencontrer quelqu'un, quoi. C'est à la fois une conversation et en même temps on plonge complètement dans quand ça marche hein. on plonge complètement dans le livre quoi. J'ai l'impression de et qu'en fait ce que dit le livre moi ça me nourrit pour jouer
même si ça n'a strictement rien à voir potentiellement
ouais potentiellement parce que je sais que j'ai ça
dans vos bagages
maintenant. Ouais que c'est que comme j'ai pas de technique j'ai ces vies-là que j'ai vécues.
J'ai un million de visages dans la tête. J'ai un million de profils dans la tête. C'est jamais assez, c'est jamais assez. Il m'en faudra plus de visages.
Bibliothèque de Florence Loirecaille. Marie Richer.
On vous a demandé, comme à tout le monde,
oui.
De choisir 5 textes.
Oh là là, ouais.
C'était galère.
Ouais.
Mais c'était sympa.
Hyper sympa. C'est très intime, en fait. C'est un portrait chinois, en fait.
Et la pile, là, telle qu'elle est là, on la prend dans l'ordre.
J'ai pas vérifié. Non. Ouais, pourquoi pas.
Ok.
Ouais.
Alors, on commence par pas n'importe quel livre. Marie de Pucé, Dieu gît dans les détails. C'est un texte qu'elle écrit en rapport avec son expérience de la clinique de la Borde.
Oui.
Comment vous découvrez Marie de Pucé ? Qu'est-ce que vous connaissez de la Borde à ce moment-là ?
Alors, moi, c'est un truc assez lacanien, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ma grand-mère, donc Caille, que j'allais voir tous les étés...
Berry ?
Dans le Berry. Le hameau où elle vivait s'appelle La Borne. Et c'est un village de potiers depuis le Moyen-Âge. Et donc, c'est là que je passais tous mes étés.
Et, quand vous viviez en Indonésie,
quand
en
Égypte, tout ça. Voilà. Et c'est une amie de mon père peintre qui s'appelle Miki Malé qui m'a parlé de La Borde. Et ça m'a tout de suite intriguée. Et c'est pas très loin de La Borne. La Borde, parce que c'est en Sologne. Et Marie de Pucé, je n'ai aucun souvenir de comment je l'ai découverte. Et cette femme m'a fascinée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai lu ce livre. J'ai commencé par celui-là. Je n'ai pas lu 150, hein, mais ça m'a fascinée parce que... déjà, donc le nom. Donc c'est alors le peu que j'en savais, c'est que oui, voilà, c'est Jean Houry, qui est psychiatre, qui s'installait là-bas dans les années 50, dans ce château avec ce parc. Et ça parlait donc des fous, des gens qui portent en une folie. Et je me disais que ces gens-là, dans ce lieu-là, c'est la psychiatrie institutionnelle, en fait. C'est des gens qui sont libres. Il n'y a pas de barrière. Les soignants et les patients vivent ensemble. Avant, ils faisaient la cuisine ensemble. Ils font des activités ensemble. Et de suivre cette femme dans ce livre qui était là-bas, je crois qu'elle avait suivi un ami médecin. Elle raconte, en fait, dans Dieu gît dans les détails, que la frontière, en fait, n'existe pas, en fait, entre les fous, comme elle les appelle, comme les gens, les patients là-bas veulent être appelés aussi, et elle, quoi, qui a toujours un dialogue, malgré la violence. Enfin, ça m'a beaucoup parlé, quoi. Ça m'a.
Et puis c'est un livre d'une très grande délicatesse aussi, c'est-à-dire que ce titre-là, Dieu gît dans les détails, oui. Ça raconte aussi, ça raconte ce qu'elle a observé, ce qu'elle a vécu, mais aussi comment est pratiqué ce soin.
Oui.
Et c'est un soin qui repose beaucoup sur une attention portée aux détails, justement.
Oui. Oui.
Il est apparu en 1993.
Ah oui.
Est-ce qu'on vous écoute en lire un extrait ?
Oui. Alors, c'est un petit extrait. Une grande jeune fille un peu forte a ajusté son gros corps à la table. Elle a les yeux remplis de larmes qui débordent. Je m'assis près d'elle avec mon bol. Deux femmes me rejoignent. L'une jeune, un peu maigre, à l'allure étudiante, à les yeux un peu vifs, peut-être. L'autre est vêtue de cuir noir, mini-jupe, barésille et bottillon très haut. Elle tient sous le bras, c'est étrange, le dernier livre de O, Schizophrénie et création. Je me souviens, elle est prof de philo, quelque part. La petite, je ne sais. « Est-ce que vous m'aimez ?» dit la grosse jeune fille en pleurant. « Bonne question, à cette heure. » Les deux lui répondent avec douceur que oui. « Oui, mais est-ce que vous m'aimez vraiment ?» Elle pleure. Il est 10 heures du soir. Dehors, la nuit est fraîche. Il pleut. Les deux jeunes femmes sortent leurs cigarettes blondes. Quelle compagnie, les cigarettes, dans les lieux d'enfermement. On dit qu'en tôle, quand un homme arrive, les autres lui font parvenir un paquet par le gardien, avant de l'avoir vu. « Est-ce que vous voulez m'en donner ?» Elles le font. « Mais vous, dit la grosse jeune fille à la maigre, je suis jalouse de vous. Vous avez vu le docteur C. »« Oui, répond l'autre gentiment, mais je vois aussi d'autres docteurs. »« Mais moi, je l'aime, dit la grosse fille. » Et elle repleure. J'ai 32 ans et je ne sais pas faire l'amour, vous m'entendez ? Je ne sais pas. Mes deux voisines s'en tiennent à un silence attentif, prudent. On écoute tomber la pluie. Sans doute sont-elles traversées une seconde par l'envie de répondre que ce n'est pas bien difficile. Toutes trois, nous évitons cette bêtise. L'évitement partagé nous rapproche. Mais vous jouez si bien du piano, dit la petite philosophe. De loin, on reconnaît votre jeu, on s'émerveille. « Oui, mais je n'ai pas travaillé le piano, » dit la grosse jeune fille, sèchement. « Non, la guitare classique, seulement. Pendant 15 ans, oui, le conservatoire. »« Votre guitare ? Ah, ils me l'ont prise, à Sarreguemines. Ils vous enferment là-bas, vous empêchent de téléphoner. Il faut faire la vaisselle 2 heures par jour. Je ne supporte plus la vaisselle. »« Ma guitare, ma mère m'a dit qu'elle m'en rachèterait une, seulement si je ne faisais pas l'amour avec des garçons. »« Que fait votre mère ? Elle est psychologue. » Spécialiste des délinquants, des drogués. Voilà ces habitants de la Borde.
Arriver à dire, Florence Loracaille, ce qui vous touche dans ces scènes-là, parce que c'est vraiment une sorte de chronique, en fait, du temps qu'elle a passé là-bas, Marie de Pusset. Et là, on entend, c'est elle reproduit le petit théâtre de la vie, quoi.
Ouais, ouais, c'est des figures, c'est des voix, des corps qui circulent dans cet espace, et elle au milieu qui note, quoi. Enfin, qui est spectatrice, qui en même temps, qui les écoute. Elle est vraiment, oui, en dehors de ce qu'ils jouent. En même temps, elle est. J'ai l'impression qu'elle voit d'où vient leur mots, leur manque, quoi. Ça me. Enfin voilà, ça me touche beaucoup, quoi. Et à travers ce livre, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir rencontré cet auteur.
Ça me fait plaisir qu'on parle d'elle. Deuxième texte, Marguerite Duras.
Oui. Ah bah ouais, c'est incontournable.
Hein. Elle a son rectangle, on a dit tout à l'heure, quand on a visité votre bibliothèque.
Ça...
Ah mais j'avais pas vu.
C'est un BDiste qui en a fait.
Donc c'est une petite figurine en plastique. Ouais. On dirait un petit corbeau, Marguerite Duras. Donc Marguerite Duras, elle a à la fois sa figurine dans votre bibliothèque, Florence Marécaille, et à la fois son carré, quoi. Elle a son rond de table chez vous. Et vous avez choisi un texte particulier qui est un texte qui s'appelle Écrire.
Ouais.
Je veux dire, je dis particulier simplement parce que ce n'est pas un roman. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Il est un peu à part, ce texte. Il se trouve que c'est 93, la même année que Diogée dans les détails.
Ah oui.
De Marie de Pucé.
Oui, oui, parce que j'ai l'impression que ce texte, il parle du jeu, en fait. De qu'est-ce que c'est que de jouer, de témoigner de la vie toujours. Et ce qui est assez saisissant, je trouve, c'est que si on remplace jouer par écrire,
ça fonctionne.
Enfin, écrire par jouer plutôt, décidément, voilà, on atteint ce cœur de. Du cœur de toutes les voix qu'on a en nous qu'on doit jouer, quoi.
On est d'accord que c'est aussi un texte où elle parle de l'alcool.
Aussi, il y a plein, c'est ça, y a plein de, ouais. de textes courts, en fait.
C'est un recueil, en fait,
ouais.
Écrire.
Oui, oui. Elle parle de l'amour, je crois que c'est dans celui-là.
De sa maison aussi.
De Naufle. Ouais. De qu'est-ce que c'est d'être dans la maison à Naufle quand elle est vide. Mmh.
De la solitude, beaucoup.
De la solitude.
Vous avez choisi quoi comme extrait?
Alors, c'est un très très court extrait. Je sais pas, c'est un extrait que c'est comme un mantra, en fait. Hein.
Au sens où vous y revenez, vous?
Oui, voilà, où je me suis dit, 5 étapes, faut faire des choix, et du coup... Effectivement, j'ai l'impression que tous ont un lien aussi avec le jeu. Enfin, le J.E.U., quoi.
Mm-hmm.
J'ai l'impression. Personne ne peut. Il faut le dire. On ne peut pas. Et on écrit. C'est l'inconnu qu'on porte en soi. Écrire, c'est ça qui est atteint. C'est ça ou rien. On peut parler d'une maladie de l'écrit. Ce n'est pas simple, ce que j'essaie de dire là. Mais je crois qu'on peut s'y retrouver, camarades de tous les pays. Il y a une folie d'écrire. Il y a encore la folie, là. Il y a une folie d'écrire qui est en soi-même. Une folie d'écrire furieuse. Mais ce n'est pas pour cela qu'on est dans la folie. Au contraire. L'écriture, c'est l'inconnu. Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va écrire. Et en toute lucidité. C'est l'inconnu de soi. De sa tête, de son corps. Ce n'est même pas une réflexion, écrire. C'est une sorte de faculté qu'on a, à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d'une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui, quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie. Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. On ne le sait qu'après. Avant, c'est la question la plus dangereuse que l'on puisse se poser. Mais c'est la plus courante aussi. L'écrit, ça arrive comme le vent. C'est nu. C'est de l'encre. C'est l'écrit. Et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie. Rien de plus. Sauf elle. La vie. Et
Bah, c'est la définition exacte. C'est le plus beau texte que j'ai lu sur le fait de jouer, en fait. C'est le texte le plus précis. Il y a d'autres auteurs qui ont écrit sur le jeu, des metteurs en scène, mais je trouve que elle, ce qu'elle cherchait dans l'écriture, c'est ce que je cherche en jouant.
Et que c'est par exemple cette idée que c'est la plus belle question, la plus vertigineuse qu'on puisse s'adresser à soi-même, que c'est aller vers son inconnu.
Ouais, qu'il y a une autre personne à côté, qu'on fait se lever et qui marche et qui nous fait croire en tout, quoi, en sa joie, en sa colère. C'est comme des vies qu'on porte en soi, quoi, mais. Et en même temps, c'est rien, c'est du vent, en fait.
Ça passe.
Il ne faut pas qu'on voit le travail, il ne faut pas que le travail soit vu, il faut que ce soit comme un état, en fait. Et ça, Mouchkine, elle en parle aussi pas mal, énormément, dans son travail de direction d'acteur, enfin, la façon... Qu'en fait, c'est tout sauf le cliché, en fait. Elle parle du cliché, que quand il y a cliché, c'est qu'on reçoit pas les choses physiquement. Et elle parle aussi du terrain vague. Qu'est-ce que c'est que jouer? C'est les enfants sur un terrain vague. Elle parlait d'une photo de Doisneau où il y en a un qui est sur une carcasse là avec un bout de bois et c'est Napoléon, quoi. Il est là, cette photo là. Et l'autre derrière, bah, c'est son petit adjuvant, je sais pas quoi. Et il se pose pas la question de savoir, ils y croient, quoi. Et l'état, en fait, quand on se met dans un état de jouer, pour moi, ça fait vraiment écho à l'état d'écriture dont elle parle, quoi.
Elle dit aussi, le texte commence par « on peut pas ». On peut pas. On peut pas écrire, mais on écrit quand même.
Ouais.
Est-ce que vous diriez que jouer, c'est aussi tenter quelque chose qu'on peut pas ou tenter un truc qu'on croit qu'on peut pas?
Ah oui.
À chaque fois, quoi.
Toujours, ah oui, ouais. Oui. C'est ça le qui est beau dans ce petit risque-là, quoi. C'est de plonger complètement dans l'inconnu, quoi. Après, on fait pas toujours des choses. On n'est pas toujours dans cet état-là, justement. Ouais. Parce qu'après, il faut bien travailler pour vivre aussi. On peut pas être dans des états d'exception tout le temps, avec des très grands metteurs en scène. Mon métier aussi, c'est aussi de faire des choses. Qui sont estampillés moins bonne qualité parce que et qu'est-ce que c'est aussi de jouer un cliché ou un rôle dans quelque chose qui est plus ou moins bien écrit, c'est ça le travail aussi, comment on rend crédible quelque chose qui n'est absolument pas sur le papier, quoi.
Et ça reste tout aussi intéressant.
Ah ouais, et là je me dis là je fais mon travail. Ah oui,
de témoigner de la vie.
Ouais.
Votre troisième choix,
eh ben, c'est un acteur.
Pierre Clémenti.
Pierre Clémenti.
Il est né en 42 et est mort en 1999. Acteur marquant du cinéma d'auteur des années 60-70. Il joue dans Le Guépard, quand même, de Visconti, Belle de jour de Buñuel.
Oui.
Il réalise lui aussi. Et Pierre Clémenti, donc, il écrit un journal. Ça prend la forme d'un journal-essai, ce quelques messages personnels. Vous le découvrez comment ?
Alors ça, ce texte-là, je l'ai découvert par une comédienne qui s'appelle Audrey Vernon, qui avait lu ce passage lors d'une émission d'un podcast, où il était question justement du lien entre les acteurs et le milieu de la finance, quoi. Et je me suis dit, ça fait du bien d'entendre cette parole-là, cet acteur-là qui n'a pas cherché à gagner forcément de l'argent, à être forcément vu, qui a fait des choses très underground, enfin qui est un rebelle, quoi, qui est resté ce niveau d'exigence-là qu'il avait, quoi. Ça me fascine parce que je trouve ça de plus en plus difficile.
Mais c'est difficile au sens où c'est difficile à tenir.
Difficile à tenir et qu'il n'y en a plus beaucoup des acteurs comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Ou alors, on ne les voit pas.
Oui, peut-être précisément, non.
C'est ça qui est dommage.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas.
Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai envie d'être à leur côté, quoi.
Bah alors, lisons quelques messages personnels de Pierre Clémenti. Donc ça, c'est un texte qui est apparu, mais en Italie. C'était oui. En 73.
En fait, je crois qu'il a été emprisonné en Italie pour une histoire de haschich.
Oui, c'est en 71 au cours voilà. D'un tournage, ouais. En effet.
Et hein. En fait, il a profité de ces quelques mois en prison pour écrire ses mémoires, quoi. Où il parle, en fait, de toutes les étapes de sa vie, de son métier. Et parce que lui a été monté en idole, hein, grande figure du cinéma. Mais il a rejeté tout ça. Il a plus envie. La plupart des acteurs qui percent n'y résistent pas. Ils pénètrent dans l'Olympe. Ils prennent place au rang des demi-dieux. Ils croient eux-mêmes au mythe qui les déifie et qu'ils alimentent, qu'ils reconduisent par le spectacle de leur vie publicitaire. Ces idoles, je hais la chose et le mot, peuvent-elles susciter autre chose que des rêves de pacotille, des songes creux ? Désir de luxe, d'ostentation, de vanité, de fric, qui intoxique les jeunes esprits bien plus gravement que toutes les drogues. Le voilà le véritable opium, qui détourne les énergies de la voix créatrice, qui assèche les cœurs, qui mobilise les forces vivantes vers l'objectif mesquin et négatif de la réussite individuelle. Je crois qu'il est beaucoup plus important, pour celui qui est acteur, de devenir un homme véritablement. D'apprendre dans la simplicité de la vie quotidienne à communiquer avec ses frères, d'aider par son travail à mettre en lumière la part du monde qui est vérité et non celle qui est toc, préfabriquée, illusion. L'acteur est le représentant de l'inconscient collectif. Son travail permet à chacun de prendre conscience de son bonheur ou de son malheur, de tenter de perpétuer l'un ou de faire cesser l'autre pour retrouver le sentier de la joie. Voilà. L'acteur peut être l'étincelle qui donne naissance à un foyer où chacun pourra puiser un peu de chaleur, d'énergie pour continuer son voyage. Je pense que l'art doit être au service du peuple et c'est pourquoi il me semble qu'il est inconciliable avec le statut de l'idole, qui est au-dessus du peuple, qui le domine et l'humilie, qui se fait servir par lui. Je vois l'artiste comme un ouvrier parmi les autres. Il doit accomplir sa tâche quotidienne, de représenter les joies et les souffrances avec sérieux et humilité. Il doit aussi ne pas cesser de chercher, de développer son expérience et ses connaissances et ne pas s'arrêter surtout au but et aux moyens que lui donne le système. S'arrêter, c'est mourir. J'aime bien ce truc un peu déjà en 73, vous dites, hein, anti-système, quoi, dont on manque, je trouve, parmi les figures qui peuplent nos écrans.
Mais c'est aussi l'idée que ça donne. C'est beau cette idée-là que tu vois un acteur ou une actrice jouer dans un film et ça te donne du souffle pour poursuivre ton voyage, ton propre voyage.
Ouais.
Que c'est un relais d'élan.
Oui, voilà, qu'en fait, ça fait chambre d'écho, quoi. Mm. C'est la catharsis, quoi. Mm. Tu te purges en vivant les émotions avec celui qui te les offre. Et puis après, moi, j'aime bien aussi l'idée qu'après, voilà, on a joué, après, on s'en va. Pourquoi toujours commenter son travail, sa participation à un film, et pourquoi c'est... C'est pas très intéressant.
Florence Marécaille. Oui. Pour vendre de l'espace.
L'idéal, ce serait de jouer, de disparaître après. Mm. D'être juste un modèle, quoi. Mm. Ou un animal, quoi. Rester
figure,
un animal.
Quoi, au sens de la figure.
Voilà. On projette, les gens projettent, et après, on s'en va, quoi. C'est fini, et puis tout le monde se sent mieux. Tout le monde est purgé. Mm. Nous, on joint les spectateurs en vivant.
Regardez. Quatrième choix, ah oui, Henri Michaud, L'espace du dedans.
Ah oui.
Ah oui, c'est vous qui l'avez choisi. Contente. J'ai trop l'impression que je vous fais une petite surprise.
Non, mais le texte que j'ai choisi, il est très compliqué. Parce qu'en fait, Henri Michaud, moi, je lis beaucoup pour ses aphorismes, les poteaux d'angle et tout. Ça m'aide beaucoup quand je suis un peu démoralisée, tout ça. Mais là, j'ai choisi un texte un peu compliqué.
Parce que
Je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien les trucs un peu compliqués peut-être. Je sais pas, parce que je me dis, oh, c'est très compliqué. Il est très compliqué, mais parce qu'il s'appelle Clown aussi et qu'il fait partie de l'espace du dedans. Je me dis, ça va avec le titre. Et j'avais envie d'avoir un extrait de poésie aussi, même si ici, après il y en aura, mais. Et il était un peu barré quand même lui aussi. Hein, et
Henri Michaud, vous voulez dire?
Il était bien barré. Et il y a, parfois, il y a des fulgurances comme ça, incroyables. Hein, il a des trucs incroyables. Hein. Pour le clown.
Ouais.
Un jour bientôt peut-être, un jour j'arracherai l'ancre qui tient mon navire loin des mers. Avec la sorte de courage qu'il faut pour être rien et rien que rien, je lâcherai ce qui paraissait m'être indissolublement proche. Je le trancherai, je le renverserai, je le romprai, je le ferai dégringoler. D'un coup dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables combinaisons et enchaînements de fil en aiguille. Vidé de l'abcès d'être quelqu'un, je boirai à nouveau l'espace nourricier. À coup de ridicule, de déchéance. Qu'est-ce que c'est la déchéance? Par éclatement, par vide, par une totale dissipation, dérision, purgation, j'expulserai de moi la forme qu'on croyait si bien attachée, composée, coordonnée, assortie à mon entourage et à mes semblables, si dignes mes semblables. Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait comme après une intense trouille. Ramené au-dessous de toute mesure, à mon rang réel, au rang infime que je ne sais quelle idée ambition m'avait fait déserter. Anéanti quant à la hauteur, quant à l'estime, perdu en un endroit lointain ou même pas, sans nom, sans identité. Clown, abattant dans la risée, dans le grotesque, dans l'esclaffement, le sens que, contre toute lumière, je m'étais fait de mon importance. Je plongerai, sans bourse, dans l'infini esprit, sous-jacent, ouvert à tous, ouvert, moi-même, à une nouvelle et incroyable rosée, à force d'être nul, et ras, et risible.
C'est génial.
Alors là, on a enlevé tous les vêtements, hein,
bah,
très bien.
Ouais.
Ouais.
Mais ah du coup, c'est quand même pas très loin ce que vous disiez de la dissolution, de disparaître, de jouer et disparaître, de quand il dit renoncer à l'abcès d'être quelqu'un,
ça c'est
vider
bien,
l'abcès quand même, vider l'abcès d'être quelqu'un, je boirai à nouveau l'espace nourricier.
Ouais.
C'est un horizon
ouais.
intéressant en tout cas. Et c'est marrant que ça s'appelle clown.
Mais oui, le clown qui se défait de tous ses attributs quoi. J'adore Michaud. Pour moi, c'est on peut le lire tout le temps. À chaque fois, on trouve des.
Comment il s'est trouvé sur votre chemin, Henri Michaud?
J'ai découvert par le titre dans une librairie, Poteau d'angle. Ça me parlait bien, Poteau d'angle. Je me disais comment c'est possible. Et qu'il y a un poteau face en angle. Je dis alors j'ai ouvert et puis j'ai vu tous ces petits mantras là. Je me suis dit c'est des petits cailloux sur le chemin. Et après j'ai acheté tous les autres. Mais parce qu'il a des très beaux titres aussi, hein, lui. Hein, l'espace du dedans, poteau d'angle.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a quelques minutes pour aller vers votre dernier choix qu'on a évoqué tout à l'heure rapidement. C'est Annie Lebrun. Vous avez choisi Ombre pour ombre, paru en 2004. Et ce sont des poèmes.
Oui. Avec des jolis mantras aussi. Hein.
Parce qu'on a parlé d'une œuvre plus théorique, ce qui n'a pas de prix.
Oui.
Mais là, c'est un recueil de poèmes, Ombre pour ombre.
Ah oui, un jour, j'aimerais bien... Ah, c'est plus possible. Hein. Faire un dîner avec Annie Lebrun, Marie de Pucé.
Bah, c'est que des morts.
Pierre Clémenti.
Que des morts.
Ah ouais. Ce serait bien de faire un dîner avec eux.
C'est marrant parce que vous avez dit au début, Florence Larecaille, que vous organisiez certains coins de votre bibliothèque comme des plans de table pour des dîners.
Oui.
Bah, déjà, pour tester, vous pourriez juste leur faire passer la nuit côte à côte. Enfin, je veux dire, dans votre bibliothèque, pour voir si ça roule.
Mais là, ils sont ensemble, là, c'est bien. On a fait le dîner, là.
Alors, Annie Lebrun.
Ah, Annie Lebrun. Ah, oh, regardez-moi ça. Il y a des fesses belles comme l'ombre des pierres, sous les pieds brûlants de midi, furtivement. Mmh. C'est magnifique. Mmh. J'adore l'entendre parler. Il y a des archives radio de elle. C'est extraordinaire, quoi. Quelle chance vous avez eue. Mmh. Et ce que je retiens de cette femme, c'est déjà la puissance de sa pensée, et puis sa joie, quoi, son exaltation quand elle parle de tout, quoi. Voilà, elle me fascine aussi. Et j'étais très contente après de découvrir sa voix. Parce que moi, je suis quelqu'un que de radio. J'ai vécu sans écran du tout. Donc en fait, les voix, pour moi, c'est...
Quand vous voulez dire vous avez vécu sans écran, c'est-à-dire votre adolescence, votre enfance,
ouais,
votre
pas
jeune,
télé,
jeune âge adulte.
Ouais. Pour moi, c'est vraiment la radio. Je suis tout le temps en radio. J'écoute tout le temps la radio.
Mais enfant aussi, vous écoutiez la radio?
Ouais, tout le temps. Les livres, les contes sur cassette. Ouais, c'est ça en fait la lecture.
Mmh.
C'est ça,
dans
ça l'enfance. Y est, je me souviens. Mais oui, en fait, oui. C'est pas l'objet de livre. C'est la voix. C'est les voix, ouais. C'est ça, c'est les voix.
C'était déjà là le texte en fait.
C'était ça, c'était les contes de Grimm, c'était les contes de Perrault, mais en cassette. Même La Guerre des Étoiles, j'écoutais en audio, et c'est Dominique Paturel qui faisait le narrateur. Et une de mes premières fictions radio, parce que mes premiers cachets, je les ai faits
à la radio,
à France Culture, avec Jean Couturier. J'ai rencontré Dominique Paturel. Et d'entendre sa voix, c'était incroyable, quoi. Mmh. C'était pareil, j'étais dans l'histoire. Je suis entrée pas dans le livre, mais
dans la voix.
Ouais, dans la voix.
On lit le passage que vous avez choisi?
Oui. C'est le 9e cerne. Les maisons, les visages de ceux qu'il m'avait semblé aimer. Les rues, les genoux des plus heureuses caresses fouettaient les vitres. Je me jetais à l'encontre de tout à la plus vive allure. Je voulais l'imprudence car les accidents arrivent si vite. Ce n'est pas vous qui me contredirez. Comme un chien qui croit reconnaître dans les miasmes des rues la piste qu'il cherche, la voiture erra, affolée, autour des bastions de l'amour. Les quelques lumières sourdes qui filtraient entre les pierres de ces édifices soigneusement construit par des architectes assermentés, laissait supposer que quelque part, au fond de l'emboîtage, dans les cours intérieures, faute d'oxygène, le feu existait, mais couvait sous la cendre. Pourquoi ces pierres? Pourquoi cette cendre? L'amour était donc une propriété privée comme le reste, et donc ternie du reflet de ses limites comme le reste. Ici même, je vous ordonne d'éclater de rire. Après, vous respirerez mieux. Il faut dénouer vos nerfs. Notre tête-à-tête n'est pas terminée. Vous aurez encore besoin de force, mais pour l'instant, accordez-moi que toute flamme sous une cloche de verre meurt d'elle-même. C'est une question de temps. Le labyrinthe de glace était général. Au hasard de ses détours, la vie se faisait en catimini de dupes, dans une grossière illusion d'optique qui donnait évidemment, à qui voulait bien regarder d'une certaine façon, la notion d'infini. Je décidais de n'être ni exclu, ni esclave d'un système de propriété qui me paraissait être en continuelle discordance avec les bruits du cœur. À un feu rouge, je sautai du taxi et courus vers les bas-fonds de la ville. Les grandes souffleries des abris artificiels fonctionnaient bien, trop sans doute, car les femmes éprouvaient encore le besoin d'accentuer leur pâleur naturelle, de maquiller leur regard, les hommes de bander leur corps de poignées de force. Me sentant progressivement étouffée, malgré les fréquents et rapides déplacements d'air, je partais à la recherche du vent mêlé des tempêtes lunaires, du vent irréductible, par suite de ces insondables plongées dans l'océan, du vent salé qui embrase instantanément du plus petit doigt de pied à la pointe des cheveux de l'esprit. À l'air libre seulement, je compris que je me révoltais contre le capital de la vie intérieure, que j'étais arrivée au point où l'on choisit d'être nanti ou affamé, ce que vous n'étiez pas encore, ce que je n'étais pas encore. Tout ce qui était encore et toujours dans l'ombre devenait ma tentation permanente. Impatiente et résolue, patiente et affamée, je commençais à briser, centimètre par centimètre, les miroirs du labyrinthe. J'ai parlé sans éclat de voix, mon cheminement ne fut pas sans éclat de verre. J'adore ce texte. C'est ça y est, c'est l'aventure, c'est la joie, c'est l'amour, c'est voilà, elle est dans ce taxi, puis elle va, elle part à l'aventure, la grande aventure de l'amour.
C'est génial de terminer votre déballage de bibliothèque, Florence Marécaille, par ça.
Bah oui.
Ouais.
Dans cette belle exaltation. Ah, ça y est, je vois plus. Il me faut les lunettes. J'ai parlé sans éclat de voix, mon cheminement ne fut pas sans éclat de verre. Mais oui. C'est dans le film de... C'est pas dans le film de Fellini, là. Quand elle, elle est dans la fontaine, là. Et Marcello, il dit... il n'y a pas de paradis sur Terre, il n'y a que des éclats.
Quand on a compris ça, on est... On est bon pour la
on
vie, non
fait, on est fait pour partir à l'aventure.
Merci beaucoup, Florence Marécaille, d'avoir ouvert votre bibliothèque pour le Book Club.
Merci à vous.
La pile de livres à lire en japonais, c'est Tsundoku.
Ah, Tsundoku. Ça, j'adore ce mot.
Vous nous accompagnez ?
Je vous accompagne parce que je cherchais mon fils qui est juste en face chez le voisin. Qui vous adore, qui vous suit.
Votre fils ?
Mon fils est chez le voisin, oui.
Mais votre fils nous adore, c'est bizarre.
Non, pas...
Ah
non,
ouais.
Non, mon fils est
trop tôt.
Ah ouais, non, non. C'est mon voisin Nathan.
Il est trop bien ce petit coin. Hein.
Il est super bien. Franchement, vous n'êtes pas venu avant, s'il y a un champ de chocolat. Nathan,
Nathan,
je te présente Marie.
Bonjour Nathan, je suis Marie.
Bonjour Marie.
Enchantée. Ben voilà, il paraît qu'il fallait venir vous saluer avant de partir.
Ah bon, bah, très bien, c'est fait. Bon, il mange, il se mange.
Ouais,
bah oui.
On fait exprès.
Bon. Tu cherches quelque chose ?
Je cherche mon fils.
Un enfant ?
Ah, mince.
On peut être sûr que cet enfant revient ?
Cet enfant, il revient.
Ok.
Il a fait ses devoirs ?
J'en sais rien, je l'ai mis dans un coin. Elle m'a dit j'ai des devoirs à faire. Je lui ai dit tiens, bah, mets-toi là, une table.
Ah, vous n'avez pas discuté ?
Une chaise. Ah non, non, non.
Pas du tout.
À la prise de son aujourd'hui, c'était Christophe Papon. Et à la réalisation, c'était Vivien Demeyer.
Super.
Et pour réécouter tous les choix, Nathan, de Florence Loirecaille, il faut se rendre sur franceculture.fr.
Je sais ça.
Et c'est dans cet endroit, vous le savez, donc disons-le aux autres, qu'on peut trouver tous nos portraits de bibliothèque.
C'est vous qui faites l'interview à chaque fois ?
C'est moi qui fais l'interview à chaque fois.
D'accord.
Et bien. On peut donc remercier ensemble, Nathan, toute l'équipe du Book Club. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour ce générique fin ? Il est plus que... Ouais, là, vraiment,
Nathan,
c'est le meilleur.
Bah, c'est incroyable.
On va vous laisser dans le générique.
J'ai pas fait grand chose. Moi,
reste dans le générique, Nathan.
Je vais même pas garder Paul.
À bientôt.
Bon, ben, quand vous voulez.
Allez, je monte sur mon vélo.
Allez, rentrez bien.
À bientôt.
Bon retour.
Merci beaucoup.
Merci, hein.
Je m'en vais vraiment. Bisous.